Chapitre 21. Je manquerais à tous les devoirs du voyageur si je ne décrivais pas des paysages. Le genre est facile, c'est un exercice et un sport. Et l'abondance même de ce qu'on a lu permet de passer facilement du souvenir visuel au mot qui fait image. Un paysage en littérature est devenu le plaisant chromo verbal. On en est même venu à discréditer la vision pure, jouissant d'elle seulement. Voir, pour certains voyageurs, ils ont ouvert les yeux en récitant les mots expressifs. Souvent, le rythme de la vision s'est par avance cliché dans des phrases et découpé dans des alinéas. Cependant, je resterai impardonnable de me taire sur un sujet si attendu. Il s'agit ici d'un voyage, et le principal argument du voyageur, la description, est, par fatalité, absente jusqu'ici. Ce n'est point par omission ni dédain du paysage, ce n'est point par oubli des paysages vus, j'en ai regardé, ce n'est point par déconcerté ni discord entre ce que j'avais imaginé et ce que je découvrais avec un émerveillement naïf malgré lui. Car je n'ai jamais trouvé face à face les panoramas de rêves rêvés. Je les conserve avec piété. Je les compare parfois avec leurs protagonistes, leurs paraîtres réalisés. Ce n'est point de ceci, de ces imaginaires, qu'il peut être question dans ce texte au jeu double. J'ai vu dans mes yeux faits de membranes sensibles, de gelées transparentes et de rayons, mes yeux baignés d'humeur et de lumière. J'ai vu des étendues pleines d'espace, de dessins, de plans colorés, et d'autres choses indicibles avec des mots, sans que jamais imaginer telles. Paysage en terre jaune, réellement fait tout entier de terre et de jaune, mais enrichi de nuances, jaune rose dans le matin, jaune saumon dans la lumière occidentale, blême vers midi, pourpre violette dans le soir, et noir, plus que noir dans la nuit, car n'y pénètre même plus la lumière diffuse. Les plans, les découpures et l'architecture falote, fantastique et plus surprenante que les couleurs. La terre jaune qui recouvre plaine ou montagne est taillée en brèches et failles et grands coups de sabre verticaux, et ses constructions en équilibre croulant ne sont que lames, crêtes, pics, murs naturels, créneaux inattendus, romanesques imitations par le jeu des pluies des ruines romantiques. Et ce chaos, enclos au fond des vallées, plus souvent abordé d'en haut par une route toujours paradoxale, mangé sans cesse par les éboulis. Une route que le piétinement séculaire a fait souvent entrer profondément dans la terre et qui étend son coup de sabre horizontal à travers un pan de montagne, étroite à l'empan de l'homme, recreusée de petites cavernes où les chars à reculons s'abritent pour laisser passer l'autre. Un imprévu irascible et pas sérieux dans les formes dramatiques d'une falaise que l'ongle entame, ce serait puissamment beau et étouffant si ce n'était point là de la terre bruissant dans ses continuels décrépits, comme l'architecte le roc et le puisatier la nappe souterraine. On cherche sans cesse le soubassement véritable de ces formes folles et grêles, l'assiette de ces solides. On ne trouve de répit et de calme qu'en montant le plus haut possible, en s'évadant des régions basses et chaotiques, vers les hauts plateaux paradoxaux, où la plaine calmée règne et s'étire sous le ciel. L'orgie est en bas, ici au rebours de toutes les autres montagnes. Il n'y a point de pic convulsé dans les hauts, et l'image benoîte de la riante et paisible vallée abreuvée est un non-sens. L'habitant de ceci doit tenir les crevasses basses pour les lieux hantés, et les hauteurs ne sont que quiétude. Je n'imaginais rien de semblable à cela. Ni rien de semblable aux millions de collines rouges ondulant pendant 2 mois de route dans la province occidentale de la Chine, ni rien d'écrasant comme les abords et les premières marches et l'accès vers le Tibet, donjon asiatique. C'est au moment même qu'ayant traversé le fleuve qui en vient, pour, de là, drainer toute la Chine. C'est là qu'émerveillé, étonné et repu de tant de paysages minéraux, seul, depuis de longs jours avec moi, et sans miroir, n'ayant sous les yeux que les fronts chevalins de mes mules, ou le paysage connu des yeux plats de mes gens habituels, je me suis trouvé tout d'un coup en présence de quelque chose qui, lié au plus magnifique paysage dans la plus grande montagne, en était si distant et si homogène que tous les autres se reculaient et se faisaient souvenirs concrets. Ma vue, habituée aux masses énormes, s'est tout d'un coup violemment éprise de cela qu'elle voyait à portée d'elle et qui la regardait aussi, car cela avait deux yeux dans un visage brun doré et une frondaison chevelue, noire et sauvage autour du front. Et c'était toute la face d'une fille aborigène, enfantée là, plantée là, sur ses jambes fortes, et qui, stupéfaite moins que moi, regardait passer l'animal étrange que j'étais, et qui, par pitié pour l'inattendue beauté du spectacle, n'osa point se détourner pour la revoir encore. Car la seconde épreuve eût peut-être été déplorable. Il n'est pas donné de voir naïvement et innocemment deux fois, dans une étape, un voyage ou la vie, ni de reproduire à volonté le miracle de deux yeux organisés depuis des jours pour ne saisir que la grande montagne, versant et cime, et qui se trouve tout d'un coup aux prises avec l'étonnant spectacle de deux autres yeux répondants.